parole du jour avec le Père Willem.
Le pauvre le plus proche est celui qui souffre près de nous. C'est l'alliance dans les abîmes. Voilà pourquoi Jésus ose dire ainsi, « Car toujours les pauvres, vous en avez parmi vous, vous en aurez toujours, et quand vous voulez leur faire du bien, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Voyez dans Marc 14, 7. Jésus nous donne une précision d'extrême importance. Il ne nie pas tout ce qu'il a enseigné ou fait ailleurs. Il affirme qu'en cet instant, c'est lui le pauvre, et il ne bluffe pas. Le geste de la femme l'a sûrement aidé à méditer. Le terme méditer vient de meditari, être mené vers son centre. Il a aidé cette femme à se recentrer sur son humanité, sa pauvreté du moment. Aider les pauvres au loin, si je passe à côté de la souffrance de mon voisin, peut-être une façon de fuir mon prochain. Il est plus facile de donner de l'argent, ce que voudraient faire les apôtres d'ailleurs. Oui, il est plus facile de donner de l'argent que d'accompagner l'autre dans sa souffrance. Aider les pauvres, même en se faisant proche, c'est encore souvent obéir à des motivations secrètement intéressées. On se donne bonne conscience, on se fait bien voir. L'enjeu est bien plus élevé. Au moment où Jésus entre dans le combat final, cette question met en évidence le cœur du combat non violent. La question de la puissance et de l'impuissance. Cette femme qui a versé le parfum entre dans la logique de Jésus. L'abaissement absolu, dans un geste de folie d'une part, de gratuité totale d'autre part. Cet épisode rappelle les béatitudes. Il n'y est question ni d'argent, ni de grandes actions, ni de signes de force, de puissance ou d'efficacité, comme prône notre monde. Et pourtant, c'est ce type de présence aux pauvres et aux souffrants que nous propose Jésus. Entrer dans une autre dynamique. Dans les béatitudes, le Christ fait l'apologie de la faiblesse et des faibles selon le monde. Les pauvres, les doux, ceux qui pleurent, les affamés de justice, les miséricordieux. À tout cela, qui ne font pas recette dans notre monde, Jésus promet non seulement le bonheur au présent, mais aussi des résultats en humanité étonnants, comme s'il possédait une puissance, une force à laquelle rien ne résiste. Ce sont les faibles qui sont choisis par Dieu pour restaurer l'humanité par leur humanité mise à nu, où seul reste la capacité d'aimer qu'ils reçoivent intégralement du Père. La traduction de Chouraki nous fait toucher à cette saveur des béatitudes en remplaçant bienheureux par en marche, en marche, en marche. Oui, ils sont heureux, ceux qui marchent dans cette voie. C'est seulement ainsi qu'adviendra le royaume. Heureux les doux pour aujourd'hui, qui prenant le temps, respectant l'intime et l'infime, ouvrent des espaces insoupçonnés, ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Judas Iscariote, l'un des douze, s'en va vers les grands prêtres pour leur livrer ce Jésus, dans Marc 14, 10, 11. En entendant, ils se réjouissent, ils promettent de lui donner de l'argent. Eh bien, oui, en entendant ce qu'il dit, oui, il promet beaucoup de choses. Et il cherchait comment, à l'occasion, le livrer. Ne jugeons pas trop vite Judas Iscariote. Mettons-nous un instant sa place et essayons d'entrevoir son point de vue, peut-être pas si loin du nôtre en fin de compte. Judas en a assez d'attendre. Il est déçu et ne comprend pas le chemin que prend Jésus. Il espérait un messianisme efficace, par la révolution, par une victoire, par des résultats. Pas un messianisme d'amour. Ce qui s'est passé avec la femme et les paroles de Jésus en réaction, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement et au monde entier, ce qu'elle a fait, on en parlera. Ça a dû l'exaspérer, ce Judas. Ce n'est pas comme cela qu'on arrivera à quelque chose. Il pense sans doute aussi que Jésus se trompe d'ennemi. Ce ne sont pas les pouvoirs liés au temple qu'il faut, disons, chasser. Ce sont les Romains, l'occupant, et il faut se mettre en guerre contre eux. Alors Judas se sent impuissant et en colère face à la tournure que prennent les événements. Alors il décide d'agir pour protéger la nation. Il sait bien ce qu'il a vécu avec Jésus, mais en dernier recours, il préfère être fidèle à ce qu'il a toujours cru être sa mission, à ses principes, à ses valeurs. Plutôt que de se laisser attendrir, plutôt que de vivre cette incompréhension et cette tension intérieure insupportable. Judas n'est pas un mou, ni un sentimental. C'est un homme de devoir, un homme de raison. Les grands prêtres se trompent sur sa motivation en lui promettant de l'argent. Sa motivation première n'est pas là, mais c'est un homme bien ancré dans la réalité. Sans doute est-ce pour cela qu'il acceptera l'argent. Peut-être pour aider à financer la lutte contre l'ennemi romain, l'après Jésus. Pour lui, Dieu ne peut pas perdre. La cause de Jésus est trop importante. Il ne supporte pas d'imaginer que Dieu puisse être à la merci des hommes. Il veut aider Jésus à être enfin ce qu'il doit être selon lui, le Messie victorieux et fort qui prend la tête d'une troupe. Il faut tenter quelque chose. Peut-être, au fond de lui, espère-t-il que son maître va se défendre. A-t-il voulu provoquer une réaction chez lui en hâtant la confrontation? Espérait-il imposer par la force ce qui ne semblait pas se profiler s'il laissait Jésus continuer à sa façon? Espérait-il que Jésus et ses amis agiraient enfin avec puissance pour cette cause juste? Ou qu'il fuirait et deviendrait maquisard? Dans les deux cas, ce serait le signal du début d'une grande libération. Peut-être a-t-il aussi pensé que face à la force du pouvoir du temple, Jésus déciderait enfin d'unir les forces. Et s'il ne choisissait aucune de ces solutions, alors c'était un imposteur et il valait mieux en finir rapidement et surtout ne pas tout perdre. Judas a pris le parti des puissants en espérant que le Christ rejoigne sa conception de la force, de la puissance, de la gloire. Il n'a plus foi en Jésus. Ce qu'il est ne correspond pas à ses attentes. Ce qu'il fait lui semble voué à l'échec. Les autres apôtres ont une réaction différente de celle de Judas. Ils se raccrochent à leur histoire, à leurs racines, à l'expérience de Dieu faite par leurs ancêtres, le passage de la mer Rouge, la Pâque, cette libération imprévue, au-delà de toute attente. Il est temps qu'il se manifeste. Comme pour son entrée à Jérusalem, Jésus, plein d'autorité, donne des indications précises où chaque détail prend sa place. Le temps semble suspendu. Tout se passe exactement comme il l'a dit. Cela leur paraît incroyable, mais tellement rassurant, finalement. Alors, ils font exactement ce que leur maître leur a demandé. De cet espace de collaboration positive entre les disciples et Jésus, ressort une dynamique d'espérance. C'est l'heure de la Pâque, c'est l'heure de Dieu, l'heure de la grande libération initiée par Jésus de Nazareth.